Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans.
Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative?
C'est des victimes qui rencontrent des détenus.
Oui, c'est ça.
Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement.
J'aimerais revoir mon frère, j'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses.
J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette.
J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux.
Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement?
Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants.
On met des petites claques, c'est pour impressionner.
Mais des claques, c'est des coups.
En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie.
Assume! Nous sors pas tes excuses débiles, là!
Tu le prépares pas, en fait! Moi, tu me prépares! Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers!
Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ben ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu.
Je comprends pas cette violence.
On est là pour favoriser leur réparation.
J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte, en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. C'était mon grand frère.
Est-ce que vous saviez qu'il était possible d'ouvrir un dialogue entre les victimes et les coupables? Moi non, mais je l'ai découvert après avoir vu le film français « Je verrai toujours vos visages » réalisé par Jeanne Herry en 2023 avec les acteurs Adèle Exarchopoulos, Leila Bekhti et Gilles Lellouche. Pour faire court, c'est ce qu'on appelle en réalité « justice restaurative » et elle a été mise en place par la loi du 15 août 2014. Selon l'Institut français de la justice restaurative, seulement 7 rencontres entre détenus et victimes ont eu lieu en 2024. Et personnellement, je pense que c'est un dispositif qui mérite d'être exploré de plus près puisque certaines personnes ne connaissent pas son existence. C'est pour cela que nous recevons aujourd'hui Wendy Thuillier qui saura sûrement approfondir le sujet mieux que moi. Bonjour Wendy, vous êtes juriste pénaliste mais aussi coordinatrice de la plateforme de la justice restaurative à l'ARCA, Observatoire des violences. Déjà, pour en savoir un peu plus, c'est quoi la justice restaurative ?
Oui, bonjour. Alors, la justice restaurative, c'est un accompagnement qui permet d'accompagner aussi bien les victimes que les auteurs d'infractions, que toute personne qui est touchée par une infraction pénale. L'objectif est effectivement de leur offrir un espace de parole leur permettant de libérer celle-ci, de parler des répercussions que ça a pu avoir sur leur vie, mais aussi de leur sentiment de justice ou d'injustice au regard de ce qui s'est passé. Et cet accompagnement peut les mener jusqu'à une rencontre avec auteur ou victime en fonction de qui ils sont.
Comment est-ce qu'on peut recourir concrètement à une mesure de justice restaurative? Est-ce qu'il y a une démarche à faire?
Alors oui, il faut effectivement contacter un service qui est formé à la justice restaurative. Pour cela, eh bien, on peut soit s'adresser auprès des associations d'aide aux victimes, soit auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ou bien lorsqu'on est mineur auprès de la protection judiciaire de la jeunesse, ou encore auprès de la Fédération Citoyens et Justice. Lorsqu'on est accompagné par aucune de ces structures, dans ce cas, eh bien, il est possible de s'adresser auprès de la plateforme de justice restaurative que mon association l'ARCA a pu mettre en place. Et nous, on pourra effectivement soit relayer auprès des professionnels sur le terrain concernés ou bien garder cette demande afin que nous puissions nous l'accompagner si jamais il n'y a pas de professionnel formé sur ce territoire-là.
Et si au contraire, on veut être coordinateur d'une rencontre entre la victime et son agresseur. Est-ce qu'il y a une formation à suivre, par exemple ?
Alors oui, tout à fait. Il y a une formation à suivre puisque lorsque la justice restaurative est entrée dans nos textes en 2014, il y a une circulaire de mars 2017 qui indique que pour devenir effectivement professionnel en justice restaurative, donc là on donne deux noms, soit facilitateur, soit animateur en justice restaurative, il faut suivre une formation et cette formation, elle peut être dispensée par quatre organismes en France, plus deux écoles, donc soit par l'association, la Fédération France Victimes, soit par la Fédération Citoyens et Justice, ou bien par l'Institut français de justice restaurative, ou encore nous, l'ARCA. Et après, il est possible de se faire former par les écoles nationales de la protection judiciaire de la jeunesse, ou bien de l'application des peines.
Justement, vous appuyez la loi du 15 août 2014, celle qui a justement mis en place la justice restaurative en France. Mais est-ce que les personnes qui ont été condamnées avant cette date peuvent demander une mesure de justice restaurative ?
Alors oui, tout à fait. Toute personne qui ont été victime ou bien auteur d'infractions pénales peuvent avoir le droit de participer à une mesure de justice restaurative. Que les faits soient avant la loi de 2014 ou bien que ça soit après cette loi-là. Ce n'est pas exclusif.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule concrètement une rencontre restaurative entre la victime et l'auteur de l'infraction ?
Bien sûr. Tout d'abord, avant d'en arriver jusqu'à une rencontre, il y a une préparation. Une préparation qui va être individuelle de la part aussi bien côté victime que côté auteur. Cette préparation, elle sera faite à l'identique, c'est-à-dire que le professionnel en justice restaurative va agir de la même manière d'une part comme de l'autre. Lors de cette préparation, nous allons recueillir les attentes restauratives des personnes, savoir en soi pourquoi ils souhaitent cette rencontre, et puis ensuite on va les amener à pouvoir libérer leur parole sur leur vécu, sur ce qui s'est passé, mais aussi à pouvoir scénariser cette rencontre. C'est-à-dire qu'on va vraiment questionner les personnes sur ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'ils n'aimeraient pas dire, ce qu'ils aimeraient entendre, ne pas entendre, vivre et partager ou ne pas vivre et partager. Et ça, on va le faire à la fois pour eux, mais on va aussi leur demander de se mettre à la place des autres et se demander, l'autre personne, lorsqu'elle souhaite aussi cette démarche, qu'est-ce qu'elle souhaiterait lors de cette rencontre. Une fois que la préparation est terminée et que tout le monde est toujours OK pour se rencontrer, que la sécurité est bien respectée et garantie de part et d'autre, on peut en arriver jusqu'à la rencontre.
Est-ce qu'il existe néanmoins des risques pour les victimes dans ces démarches, comme par exemple une certaine pression, de la peur ou même un risque de revictimisation ?
Alors ce risque, non, du moins c'est notre rôle à nous en tant que professionnels en justice restaurative de faire qu'il ne soit pas présent. C'est pour ça que la préparation est une préparation qui est quand même assez longue. Il est difficile de donner un temps puisque ça dépend de chaque personne. Mais en tout cas, on n'est pas sur un rendez-vous puis une rencontre. On est vraiment sur quelque chose qui dure sur plusieurs séances. Et de plus, durant toute la préparation, on va bien vérifier la sécurité à la fois physique et psychologique de la personne, que ça soit pendant qu'elle est dans notre entretien ou bien à l'extérieur. Donc, dans ces précautions-là, on va vraiment vérifier si le volontariat de la personne de participer à cette mesure de justice restaurative, est-ce que cette participation, elle est vraiment volontaire ou bien est-ce qu'il y a une personne qui la pousse à participer. De plus, dans la préparation, de vérifier qu'est-ce que la personne serait en capacité d'entendre ou de vivre ou de dire, ou ce qu'elle ne serait pas en capacité nous permet aussi de vérifier son seuil de tolérance, de ce qu'elle est en capacité de supporter lors de cette rencontre. Si jamais, lorsqu'on prépare l'autre personne, on se rend compte qu'il y a des possibilités d'aller sur ce terrain-là, dans ce cas-là, le rôle du facilitateur ou de l'animateur en justice restaurative, c'est de ne pas aller jusqu'à la rencontre afin de garantir. De plus, il faut savoir que lorsqu'il y a des interdictions d'entrée en contact, il est possible de lever cette interdiction d'entrée en contact seulement le temps de la rencontre. C'est-à-dire que les auteurs n'ont pas le droit de contacter la victime en amont ni après. Ils n'ont le droit d'échanger avec eux que lorsque le facilitateur est présent dans la rencontre uniquement.
qu'est-ce que la justice restaurative pourrait apporter aux victimes et aux auteurs d'infractions ?
Eh bien, ça peut apporter aussi bien côté victime comme côté auteur déjà un espace où ils peuvent libérer leur parole. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort, où ils se sentent entendus lors de cet espace-là. C'est aussi un espace où ils peuvent obtenir des réponses à leurs questionnements. Pourquoi on m'a agressé? Pourquoi moi? Est-ce que finalement je suis toujours surveillée? Est-ce qu'il peut revenir? Ce sont des questions que les victimes peuvent se poser. Du côté auteur, il y a aussi des questionnements comme pourquoi j'en suis arrivée là? Pourquoi la victime a pu dire ça? Qu'est-ce qui a fait que? Ils ont aussi des interrogations. De plus, c'est un espace où ils peuvent amener à libérer leurs paroles sur leur vécu, mais pour dire comment ils ont vécu la situation, pour dire quelles sont les répercussions que ça a pu avoir sur eux. Et ce temps de parole-là, c'est un temps qu'ils n'ont pas forcément, voire qu'ils n'ont pas du tout lors de la procédure pénale. C'est aussi un moment de réhumaniser les personnes, de pouvoir mieux comprendre les vulnérabilités de part et d'autre. Ça permet aussi de se responsabiliser par rapport aux conséquences de notre acte. Les personnes ont aussi moins peur en leur avenir et se sentent beaucoup plus apaisées par la suite. En soi, les effets vont dépendre aussi des attentes des personnes et de d'où ils en sont dans leur chemin, puisque la justice restaurative peut arriver dans la vie de la personne à tous les stades de la procédure, que ça soit en pré-sentenciel ou en post-sentenciel, que ça soit alors qu'on a déjà eu un accompagnement thérapeutique ou pas du tout d'accompagnement thérapeutique en parallèle. Donc c'est vrai que en fonction de où on en est et quelles sont les attentes de départ, les effets peuvent différer. Mais en soi, on est vraiment sur un apaisement, une restauration du sentiment de justice, moins de peur pour l'avenir, une meilleure compréhension de nos propres vulnérabilités et des vulnérabilités des autres, une réhumanisation de l'auteur. Voilà, c'est vraiment des effets qui ressortent énormément.
Peut-on dire non à une mesure de justice restaurative, que l'on soit la victime ou l'auteur d'infraction ?
Tout à fait. C'est un accompagnement qui est gratuit, confidentiel et qui est volontaire. Dans la question du volontariat, c'est-à-dire que la personne n'est pas obligée d'aller en justice restaurative. Par conséquent, ça veut dire que la justice pénale ne peut pas obliger l'auteur ou bien la victime à aller dans une mesure de justice restaurative. Il faut que les deux personnes ou les personnes soient volontaires d'y participer. Ce côté volontaire, eh bien, il ne s'apprécie pas uniquement au début de l'accompagnement. C'est quelque chose que nous devons vérifier à tous les stades de l'accompagnement. C'est-à-dire que les personnes peuvent très bien rentrer en justice restaurative et être d'accord pour cela. Puis, après un entretien ou bien vouloir arrêter juste à la fin de la préparation avant d'aller à la rencontre, vraiment, ils peuvent s'arrêter à tout moment.
Et pour les mineurs, ça se passe comment ?
Eh bien, pour les mineurs, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on doit obtenir le consentement des mineurs pour entrer en justice restaurative. Mais derrière, eh bien, effectivement, il va falloir aussi recueillir le consentement des parents, c'est-à-dire que des parents ou bien des personnes ayant autorité parentale sur le mineur. Et lorsqu'il n'y a pas de personne qui a l'autorité parentale, eh bien, effectivement, on va se référer, par exemple, au conseil de famille lorsque les mineurs sont pupilles de l'État. En tout cas, on va toujours se référer à la personne qui détient l'autorité parentale sur le mineur.
Pensez-vous que la justice restaurative est adaptée aux violences sexuelles ?
Alors oui, la justice restaurative est adaptée aux violences sexuelles. Et si je devais même donner les chiffres aujourd'hui, 85% des mesures de justice restaurative que nous supervisons sont sur des faits de violences sexuelles. Donc c'est vraiment une mesure qui est très adaptée. On a énormément de demandes à ce sujet, notamment parce que les victimes ont beaucoup de questions par rapport à ce qui leur est arrivé, ont besoin de dire les répercussions que ça a pu avoir. Ils ont besoin de vraiment comprendre pourquoi elle, pourquoi m'avoir fait ça, est-ce qu'il y a eu d'autres victimes. Oui, c'est souvent demandé en matière de violence sexuelle. Et par la question de la sécurité qu'on a pu aborder dans les questions précédentes, eh bien, nous restons tout à fait aussi vigilantes à cette question de sécurité lors de rencontres en violence sexuelle.
Quels sont les délits que vous retrouvez le plus souvent, mis à part les violences sexuelles ?
Alors, nous allons retrouver aussi tout ce qui va être violence intrafamiliale. Donc, quand j'appelle violence intrafamiliale, nous allons avoir les violences volontaires commises sur ascendant ou bien descendant. Donc plutôt ce qui est violence d'un enfant sur un parent ou bien d'un parent sur un enfant ou bien un membre de la famille sur un enfant. On va aussi avoir des demandes sur des violences conjugales. On va avoir des demandes sur des faits de harcèlement. Après, nous allons avoir des demandes sur tout ce qui va être atteinte au bien avec violence. Donc, tout ce qui va être homejacking, cambriolage, braquage à main armée. Voilà, ce sont des choses pour lesquelles nous pouvons avoir des demandes.
Pensez-vous que la justice restaurative peut coexister avec la justice punitive ? Pour nos auditeurs, la justice punitive, c'est l'idée que les crimes doivent être punis de manière proportionnelle à la gravité de l'infraction.
Tout à fait. En soi, la justice restaurative, elle n'a pas vocation pour venir supprimer la justice punitive. En soi, elle est complémentaire, du moins c'est comme ça que la France l'a pensé, c'est-à-dire que la justice restaurative, elle peut être mise en place à tous les stades de la procédure, même lorsque les faits sont classés sans suite ou bien prescrits. En soi, les deux justices sont complémentaires dans le sens où il y en a une qui a pour objectif de punir effectivement l'auteur de l'infraction et de faire ressortir effectivement est-ce qu'il y a eu une commission ou non d'infraction, est-ce que telle personne est responsable de la commission de cette infraction. La justice restaurative n'a pas cette vocation-là. La justice restaurative, elle est là pour remettre du dialogue là où le dialogue a été rompu. Elle est là pour restaurer le sentiment de justice vécu par les personnes. Donc c'est vraiment deux choses qui sont complémentaires et qui ne font pas exactement la même chose.
Est-ce que pour vous, la justice restaurative devrait être plus développée en France ?
Oui, tout à fait. La justice restaurative aurait vocation à être plus développée en France, rien que pour répondre aux besoins des personnes, puisque il n'est pas rare que sur des territoires, l'information à la justice restaurative ne soit pas donnée, alors que c'est un droit pour les personnes, notamment pour les victimes. On a une directive européenne de 2012 qui indique que dans les droits des victimes, ils ont le droit à la justice restaurative. Or, lorsque il y a bon nombre de victimes qui ont subi des faits et qui n'ont pas l'information qu'ils peuvent participer à une mesure de justice restaurative. De plus, la philosophie de la justice restaurative voit plus grande que ce que la France a pu mettre en place. La France, là, comme je le disais précédemment, a pu calquer la justice restaurative aux différentes étapes de la procédure pénale. Or, la justice restaurative, si on s'en tient à la philosophie même de celle-ci, eh bien la justice restaurative ne doit pas se résumer aux différentes mesures qui sont prévues par le système pénal français, mais ils sont bien plus larges que cela. Il y a des pratiques restauratives qui pourraient être davantage développées pour venir en réponse aux attentes aussi bien des victimes que des auteurs. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire en France pour réussir à développer cette justice restaurative.
Il faut savoir qu'entre 2022 et 2024, le nombre de participants aux mesures de justice restaurative a quadruplé selon l'Institut français de la justice restaurative. Mais actuellement, plus de 400 personnes sont toujours sur la liste d'attente par faute de moyens suffisants, car la justice restaurative ne représente en réalité que 0,01% du budget du ministère de la Justice en France.